Alors, on va continuer notre étude sur l'exposition de la Confession de foi baptiste de Londres 1689. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 2 qui s'intitule « Dieu et la Sainte Trinité ». Mais dans ce chapitre-là, il y a trois paragraphes. Alors, on va prendre un sermon par paragraphe parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Comme je vous ai dit tantôt, la tentation est à forte de tout passer un chapitre d'une claque, comme on dit. Mais je crois que c'est pas intelligent de faire ça. C'est mieux y aller lentement et d'avancer. Alors, le paragraphe 1 du chapitre 2, c'est le thème, c'est le seul Dieu vrai et vivant et les attributs de Dieu dans leur ensemble. Le paragraphe 2, on ne verra pas le paragraphe 2 cette semaine, mais ça va être au mois de février, fin février, la souveraineté toute suffisante de Dieu. Et le troisième paragraphe, c'est la triunité de Dieu ou la Trinité. Alors, il ne faut pas penser qu'on sait tout sur la Trinité, là. Il y a des briques, ça dépêche, qui ont été écrits là-dessus, puis je vous dis qu'il y a du matériel là-dedans, là. Alors, des fois, de faire un tour d'horizon le plus complet possible, ça nous bénit. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude et de permettre que notre cœur soit ouvert à la réception de sa parole, parce qu'il y a toujours des bénédictions dans sa parole, et ça a toujours un but, c'est le but de corriger des choses en nous, nous rapprocher de lui, nous faire mieux le connaître. Alors, notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Roi. Tu es tellement grand. Seigneur, une vie entière consacrée à l'étude des Saintes Écritures pour découvrir qui tu es, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est l'homme, c'est quoi le péché, c'est quoi l'eschatologie, les choses de la fin, et bien d'autres choses encore. Alors, Seigneur, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur toi et sur tout ce qui est inscrit dans les Saintes Écritures. Et Seigneur, nous devons avouer humblement que parfois nous avons de la négligence face à cela. Et bien entendu, on est conscient que mieux on va te connaître, plus on va connaître tes Écritures, plus on va être béni. Et plus notre marche chrétienne, ça devrait de ressembler à celle que tu veux vraiment que l'on mène et que tout cela t'apporte honneur et gloire. Alors on te prie ce matin que ton esprit nous guide nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole et à son assimilation, Seigneur. Bien entendu, entendre une chose, il y a toujours un danger de que ça rentre par une oreille, que ça sorte par l'autre. Permets, Seigneur, que ça reste. Permets qu'on comprenne ce qu'on étudie et qu'on applique dans toutes ces choses dans nos vies de tous les jours. C'est ce qu'on te demande ce matin par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, le chapitre « Dieu et la Sainte Trinité », c'est un chapitre d'une très grande importance pour plusieurs raisons. Parce que ça énonce la doctrine orthodoxe de Dieu. Orthodoxe, ça ne veut pas dire la religion orthodoxe, ça veut dire ce qui est droit. Autrement dit, ça nous donne une vision juste de Dieu et de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, on voit qu'il y a beaucoup de matériel à comprendre là-dedans. Alors, quand on fait ça, qu'on étudie ça, on se rend compte que, dans le fond, toutes ces choses-là, ce n'est pas d'hier que ça a été étudié, là. Au début du 4e siècle, en 325, en 381, pourquoi je vous donne ces dates-là? C'est parce que ça fait partie de les théologiens, dès le départ, dans ces années-là, 4e siècle, commençaient à avoir des grandes difficultés concernant qui est Christ, c'est-tu le Fils de Dieu, as-tu toujours existé? Il y avait des problèmes créés dans les églises en général, et les théologiens avaient besoin de se réunir et de discuter ensemble avec les Écritures pour définir qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est les attributs de Dieu, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, et toutes ces choses-là. Alors, ils ont concentré le résultat de leurs efforts et de leurs études ensemble dans ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, le symbole de Nicée-Constantinople, c'est simplement qu'après toutes les études, il en arrivait à un consensus et il l'écrivait de manière à ce qu'il puisse le faire circuler dans les églises pour que les gens finissent par avoir une compréhension correcte des choses de Dieu. Alors, ça a été fait, on l'appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Ça s'est fait, il y a une partie de ça qui s'est faite en 325. pour Nicée, à Nicée, et l'autre à Constantinople. Alors, on sait que... Alors, ces choses-là, ça existe encore. Là. On peut trouver sur Internet facilement là, le symbole de Nicée-Constantinople et qui définit qui est Dieu. Et ça... Alors, c'est pas d'hier que ça existe, là. Mais on a besoin de ça encore aujourd'hui. On a besoin de ça pour avoir une vision équilibrée du caractère de Dieu et de ses attributs. Le caractère de Dieu, de nos jours en particulier, on a tendance à prendre certains attributs de Dieu et à les monter en épingle parce qu'eux, ils font nos affaires, ils font notre affaire. Ah, l'amour de Dieu, ça, il n'y a personne qui s'obstine avec ça. La patience de Dieu, personne qui s'obstine avec ça. Mais si on leur parle de la sévérité de Dieu, oh, là, on dirait qu'on marche sur des œufs. Le monde n'aime pas ça entendre parler de ça. Pourtant, c'est dans les Écritures. Une vision équilibrée, c'est que tu n'es pas en train de nier que l'amour de Dieu n'est pas là. Tu n'es pas en train de dire que Dieu n'est pas gracieux. Oui, il est aimant. Oui, il est gracieux. Mais oui, il est sévère. Et bien d'autres choses. Alors, une vision équilibrée, ça veut dire que tu regardes qui Dieu est, selon les Écritures, et l'équilibre, là, c'est fragile, parce qu'au cours des siècles, beaucoup de personnes ont eu des déséquilibres dans leur théologie, et cela amène des graves, très, très, très graves problèmes. Alors, on va regarder aussi qu'il y a dans la doctrine historique et biblique de la Trinité trois phases. On va les étudier au cours des prochains mois. Il y a l'affirmation. D'abord, c'est après un certain temps avec les gens s'entendre sur qui est Dieu? Un seul Dieu en trois personnes, mais quand on commence à rentrer dans les détails de ça, on se rend compte que c'est difficile à saisir. Donc, l'affirmation, ils ont commencé par étudier et mettre tous les versets ensemble, et les versets qui semblent se contredire des fois. Et ils l'ont expliqué et ils ont montré jusqu'à quel point c'est pertinent. Les auteurs de la Confession de foi de Londres étaient d'accord pour ce chapitre-là avec un autre très important de Confession de foi, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la Westminster Confession of Faith de 1646. La Westminster Confession of Faith de 1646, c'est la confession de foi qu'ont adopté les presbytériens dans le monde entier. C'est une grosse, très, très grosse... pas religion, mais dénomination, les presbytériens. Eux autres, ils l'ont fait avant nous. Nous, on l'a fait en 1689. Eux, ils l'avaient fait en 1646. Mais en 1646, ils ont pris le chapitre 2 et ils ont regardé si on avait des différences avec eux. On a des différences entre les deux confessions de foi, mais sur des sujets très précis. Mais sur ce sujet-là, on est parfaitement d'accord avec les presbytériens. On pourrait faire rentrer un presbytérien ici, puis lire ce qu'on va dire, puis il serait d'accord. Alors, a été rédigé en 1646, mais c'est juste pour vous dire, on a parlé un petit peu dans l'introduction, combien il y avait de personnes qui ont travaillé sur la 1689. Tous les top théologiens, pasteurs de l'Angleterre et de d'autres pays se sont réunis pour la 1689. Mais pour la Westminster, les presbytériens, quand vous leur en parlez, là, sont très fiers de leur confession de foi et ils ont raison. Ça a été rédigé par 121 théologiens. Alors, il faut se rendre compte de la difficulté de définir des choses quand on est 121. C'est du stock. Alors, il faut que ça ait été approfondi, étudié et formulé de manière à ce que ça satisfasse 121 théologiens. Alors, ça a été bien fait. Ça a pris du temps. Ils l'ont produit. Et ils s'en servent encore aujourd'hui. 1646, puis ça fait 400 ans qu'on s'en sert encore. Alors, ça a été bien fait. Mais c'est la même chose pour nous. Alors, on va prendre trois leçons pour exposer le chapitre 2 de la Confession de foi. Alors, les trois leçons vont correspondre aux trois paragraphes. Il y a trois paragraphes dans le chapitre 2, dans le 1689, puis ça va correspondre à ça. S'il y en a qui aimeraient développer leur connaissance sur le sujet de Dieu, ses attributs et la Trinité, je vous propose un livre en français qui s'appelle « Le Dieu trinitaire et ses attributs ». Je vous ai donné les détails, si jamais il y en a qui veulent suivre là, avec les feuilles. Il y a le livre aussi qui s'appelle Connaître Dieu. Et il y en a un autre qui s'appelle Les Trois sont un de Stuart Elliott. C'est un pasteur réformé baptiste qui écrit spécifiquement sur la Trinité. Extrêmement bien fait pour vous aider à articuler toutes ces affaires-là. Et il en existe un en anglais qui est un grand, grand classique. C'est un puritain. Moi, je considère que c'est celui qui a écrit le plus intelligemment sur Dieu et sur ses attributs. C'est trois grosses briques, là. C'est incroyable de voir tout ce qu'une personne peut sortir d'intelligent sur Dieu. Parce que Dieu, c'est un sujet inépuisable. Alors, je l'ai nommé pour ceux que ça intéresserait. Mais ceux qui lisent l'anglais, je vous proposerai de façon particulière de Stephen Charnock, qui s'appelle « The Existent and Attributes of God ». On voit qu'il y a du monde qui a étudié les Écritures plus que nous autres. Ils ont vraiment plongé là-dedans. Alors, on va commencer aujourd'hui par le paragraphe 1. Donc, on va le lire. Et après ça, on va regarder un petit peu les éléments qu'il y a là-dedans. Puis on va essayer de les définir un petit peu plus en profondeur, un par un. Alors, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, au chapitre 2, le paragraphe 1, se lit comme suit. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste, pour sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocent d'aucune façon le coupable. On pense qu'on sait tout ça, là. Mais si on les prend un par un, puis qu'on divise un petit peu ce que j'ai nommé, un point par point, si je vous disais, vous en avez, on va vous poser des questions, peut-être que vous vous rendriez compte que vous n'avez pas nécessairement tout compris ce qui est marqué là. C'est très dense, le texte est dense, il y a beaucoup de stock dedans. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin, des fois, de regarder un petit peu ce que le texte dit. Vous remarquerez, de ceux qui ont les notes, là, que vis-à-vis... De chacun des phrases, il y a des petits numéros à la fin, là. 1, 2, 3. Il y en a, là-dedans, il y en a 16. Et chaque petit numéro correspond à des versets. Quand quelqu'un veut étudier comme une confession de foi comme ça, il n'y a pas de meilleure recommandation que de prendre le petit livre, de lire la phrase et jusqu'à temps que tu vois un petit numéro. Le petit numéro 1, là, tu t'en vas en bas, puis là, lui, il va te dire quel verset aller voir. C'est sûr que quand on lit une confession de foi, normalement, on lit ça comme si c'était un roman. Mais c'est pas... Confession de foi, c'est pas un roman. Confession de foi, c'est fait pour être étudié. Alors, si ça dit la première phrase, « Le Seigneur notre Dieu est le seul vrai Dieu vivant », s'il donne des versets, ça veut pas dire qu'il a dit tous les versets qui s'appliquent à ça. Mais ça dit qu'il en donne au moins deux qui te font voir la vérité qui est énoncée là-dedans. Donc, une des premières vérités qui est énoncée là-dedans, c'est ce qu'on appelle la singularité de Dieu. Ça dit, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs personnes vont dire, les musulmans ont le Dieu seul et vrai et vivant. Est-ce que c'est un Dieu trinitaire, leur Dieu? Ils vont dire, les bouddhistes vont dire d'autres choses par rapport à leur Dieu. Et l'ensemble des religions du monde. Alors, quand on dit les seuls dieux vrais et vivants, il faut que si on examine ce que ces gens-là enseignent, que ça corresponde à ce que la Bible dit. Sinon, c'est un faux dieu. Mais aujourd'hui, on dirait que je dirais le pouls du grand monde religieux en général, là, tu peux comprendre ça dans son ensemble, quand je parle du monde religieux, dans toutes les religions, le pouls est à l'unité, comme je vous ai déjà mentionné. Le pape et une multitude d'autres dirigeants de ces religions-là sont mis ensemble pour dire qu'il existe un seul Dieu et on a tous le même Dieu. Là, je leur dirais, il y a des versets qui disent, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il y a quelqu'un qui se dit qu'il peut aller au Père par un autre moyen que par Jésus-Christ, est-ce qu'il est dans la vérité? Non. Mais faut pas avoir. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'à cause de ce grand mouvement-là, les gens ont tendance à vouloir dire tout ça, ce qu'ils disent, que tous les chemins mènent à Dieu, c'est vrai. Bien, nous, comme chrétiens, si on connaît bien notre Bible, si on connaît bien notre confession de foi, on ne peut pas être d'accord avec ça. Puis dès que vous allez mentionner que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez voir les boucliers se lever. Et les épées se lever aussi, parce que les gens deviennent très agressifs et très violents. Alors, quelque part, il ne faut pas penser que défendre notre foi chrétienne d'aplomb, la foi chrétienne orthodoxe, que ça ne nous amènera pas des problèmes. Ça en amène toujours des problèmes. Seigneur, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y a des choses qui vont se passer. Plus on va vouloir défendre bec et ongles la vérité, plus on va être attaqué, plus on va être haï, plus on va être tassé. Et je vous le dis, d'ici 10 ans, selon moi et peut-être même avant, il va y avoir énormément de pression qui va venir de l'extérieur pour nous assimiler à la grande religion mondiale. Et si on n'est pas prêt, puis on ne connaît pas notre doctrine, on va glisser. La seule chose qui va nous empêcher de glisser vers ce grand mouvement-là, c'est la connaissance. La connaissance des Écritures, la connaissance de ta confession de foi, elle est là pour te protéger. Il faut l'aimer, ta confession de foi. Il ne faut pas t'avoir comme un document qui est hors biblique. Tous ces gens-là qui se sont réunis connaissaient leur Bible. Moi, je dirais là, facilement là, 20 fois mieux que moi. Chacun des individus qui a participé à ça là, connaissait leur Bible 20 fois plus que moi. Tu as des tops. Ben, tous ces gens-là, puis tout ce qu'ils ont pondu, ça vaut rien. Voyons donc, là, maintenant, il faut retomber deux pieds à terre, comme on dit. Là. Alors, dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 4, ça dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4 à 6. Pour ce qui regarde donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien au monde et qu'il n'y a d'autre Dieu qu'un seul, car encore qu'il y en ait qui soit appelé Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y en a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous savons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. De comprendre l'importance de la personne de Jésus-Christ. Si on apprend ça où? Dans la Bible et dans la théologie orthodoxe, si on pourrait dire. Il faut que tu comprennes qui est Jésus-Christ, parce que si tu ne le comprends pas, quand ce grand mouvement-là va arriver, on va dire, on a tous le même Dieu, puis si tu es musulman, puis tu fais ta religion du mieux que tu peux, tu vas aller au ciel. Mensonge. On ne peut pas dire à quelqu'un qui nous amène ça, ah ben là, t'es correct. Si tu y dis ça, tu participes à le maintenir dans sa perdition. Il faut qu'il comprenne qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène au ciel, et c'est par la personne de Jésus-Christ et la foi en sa personne et en son œuvre. Si tu ne fais pas ça, puis tu dis que bon, Bouddha, c'est correct, ben là, tu participes à cette personne-là qui reste dans la perdition. Alors, on n'ira pas lire tous les versets. Ceux qui veulent, ceux qui ont les leçons, je vous propose, si ceux qui les ont pas, qui les veulent, vous me le direz, j'en ferai une copie. Les versets, je ne les lirai pas tous parce que ça va dépasser. Je voudrais essayer de maintenir mon temps de 45 minutes, là. Alors, on a besoin de nous rappeler ces vérités-là à l'époque où l'écuménisme moderne cherche à nous convaincre que toutes les religions du monde mènent à Dieu. Et quand je vous dis ça, là, j'ai lu le document, je l'ai fait lire à Gervais, j'ai montré des vidéos aussi, où on voit à Séoul, en Corée du Sud, tous les leaders des grandes religions mondiales assis à une table sont à peu près peut-être 35-40 en avant. Là. Toutes sont d'accord et ont dit, ils ont signé un document comme de quoi qu'il faut promouvoir. Tout le monde qui sont là-dedans se sont engagés, que tous les chefs de ces chefs de, se sont engagés à promouvoir l'unité de la religion mondiale. Ça fait pas longtemps de ça, là. Ça fait maximum 2 ans. Mais je vous le dis, d'ici quelques années, vous allez voir, la pression va augmenter beaucoup, 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 beaucoup. Et on va être approché pour se joindre à eux et dire la même chose qu'eux, et promouvoir la même chose qu'eux. Il y a quelque part, ceux qui vont dire non, là, ils vont les tasser, ils vont les accuser, ils vont leur faire porter tous les péchés du monde, comme on dit. Alors, on a vu la première chose qu'on a regardée par rapport au texte, c'est la singularité de Dieu, donc Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. S'il est le seul, il ne peut pas en avoir un autre. Puis s'il est le seul, il faut qu'il soit celui qui est décrit dans les Écritures. Parce que le Dieu des musulmans ne peut pas être le même que le Dieu des chrétiens. Parce que nous, c'est un Dieu trinitaire, et eux, ils disent qu'il n'y en a rien qu'un. C'est Allah. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, à quelque part, il faut voir et pas avoir peur de défendre notre point de vue, sinon... Donc, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'indépendance de Dieu. Son auto-existence. En anglais ou en français, ils appellent ça acéité. C'est un mot... En même temps, vous allez apprendre des mots nouveaux. L'acéité de Dieu. Qu'est-ce que l'acéité de Dieu? C'est un mot théologique qui vient du latin « aceitas » et qui signifie « de lui-même ». Donc, Dieu existe de lui-même. L'acéité de Dieu, c'est un synonyme d'indépendance. Donc, Dieu est indépendant. Autarcie, quand on dit que quelqu'un vit en autarcie, c'est qu'il n'a pas besoin des autres. Il est capable de vivre, il s'auto-suffit. Donc, l'acéité de Dieu, c'est ça. Il n'a pas besoin, Dieu, de personne en dehors de lui ou de quoi que ce soit en dehors de lui-même. Il ne dépend de personne ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour son existence. C'est ce qu'on appelle... Mais imaginez-vous, vous pourriez écrire, il y a des théologiens qui ont écrit des livres complets sur l'acéité de Dieu, sur l'autosuffisance de Dieu. À quelque part, ici, on survole, mais c'est important de savoir les choses quand même. Dans Exode 3,14, ça dit « Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il dit aussi, tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. » Vous souvenez-vous que dans le Nouveau Testament, à un moment donné, Jésus a dit « Je suis. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire aux Juifs? « Je suis Dieu. » Pour ça que les Juifs étaient prêts à lapider, parce qu'ils se disaient Dieu. Les autres, ils disaient « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Ils ne comprenaient pas leurs Écritures. Alors, ça ne veut pas dire que les Juifs n'avaient aucune connaissance des Écritures. Il y en avait une, mais qui ne tenait pas compte de ce que les Écritures disaient vraiment. L'autre point, on est rendu au troisième point. Donc, on a vu l'indépendance. Maintenant, on va voir l'incompréhensibilité. Là, ça, c'est un petit peu difficile à saisir. L'incompréhensibilité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien comprendre de Dieu. Mais ça veut dire qu'on ne peut rien comprendre exhaustivement de Dieu. Quand on parle de Dieu, on ne peut jamais vider le sujet, autrement dit. Même si j'étudierais la Bible toute ma vie, à partir de, disons, 10 ans, aller jusqu'à 90, si tu veux, pendant 80 ans, j'aurais passé tout mon temps à étudier juste les choses qui concernent Dieu dans les Écritures. Pensez-vous que j'aurais vidé le sujet? Non. Donc, ça, on dit incompréhensibilité dans sa globalité. On peut comprendre beaucoup de choses de Dieu, on peut améliorer notre connaissance des choses de Dieu, mais jamais exhaustivement, on ne peut pas aller au fond. Quand on parle d'un Dieu insondable, souvent je disais, on prend une corde, on descend la corde, on la laisse tomber dans le fond d'un puits. Maintenant, on entend « toc ». Ah! Là, tu remontes ta corde, tu mesures ta corde, tu sais quelle profondeur que ça a. Mais quand c'est insondable, tu laisses ta corde descendre, puis il n'a pas de « toc ». Parce qu'il n'a pas de fond. Dieu est infini. C'est pour ça qu'on parle d'incompréhensibilité. Donc, il est infini dans son être et aussi dans sa perfection. Lorsqu'on étudie les attributs de Dieu, souvent les théologiens vont les classifier sous deux catégories. Ils vont dire, il y a les attributs qu'on appelle incommunicables. C'est des caractéristiques de la personne de Dieu qu'il ne peut pas communiquer à d'autres. Alors, il y a des attributs incommunicables et qui sont l'éternité. Dieu ne peut pas me donner l'éternité dans le sens que lui, oh, il a toujours existé. On va être éternel, mais on va avoir eu un début. Lui, il n'a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin. Alors, dans ce sens-là, son éternité est incommunicable. Son existence propre, son immuabilité, le fait qu'il ne changera pas, il a toujours été le même, le fait qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il peut pas, il pourra donner à des hommes parfois de comprendre de ce qui se passe ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre maison. Mais l'omniprésence, ça veut dire que peu importe où tu es dans l'univers, que tu sois chez vous, que tu sois en Chine, que tu sois sur la Lune, que tu sois dans n'importe où, tout ce qui se passe dans l'univers, Dieu connaît toutes choses à la perfection sur tout ce qui existe. Et il y a les attributs qu'on appelle communicables, ceux que Dieu peut communiquer à ses enfants ou aux hommes en général, jusqu'à un certain point. Il peut nous communiquer son amour. On comprend l'amour de Dieu. Mais on ne comprend pas l'amour de Dieu dans sa globalité, dans sa totalité, parce que c'est un attribut qui est insondable. Mais on comprend, c'est pour ça qu'elle se dit communicable, il est capable de nous faire comprendre. Miséricorde, bonté, sagesse, sainteté. Dieu n'a aucune limite dans chacun de ses attributs. Et son essence, comment il est fait, Dieu, là, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Parce que elle ne peut pas, l'essence de Dieu ne peut pas être comprise par un mortel. Et on est des mortels et on ne pourra jamais la comprendre. Lui seul peut se comprendre exhaustivement. Autrement dit, l'Esprit de Dieu comprend qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes entre elles connaissent l'essence de Dieu, mais ça se limite là. Nous, on a des connaissances. Alors, ça disait, quatrième point, la spiritualité. Dieu est un esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école, on nous donnait des images, hein, et on nous présentait des images qui ont contribué à nous forger des idées qui défigurent Dieu. On voyait un monsieur, une grande barbe, les cheveux blancs, les cheveux longs, souvent. Assis sur un trône, puis à côté, il y avait une autre personne qui avait été habillée, lui, en rouge. On voyait une petite colombe. Puis là, c'était supposé de représenter Dieu. Pas pour rien que Dieu dit pas faire de représentation de sa personne. Parce que ça représente vraiment pas qui Dieu est. Donc, ça disait qu'il est un esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Alors, on va reprendre point par point. Esprit très pur. Les versions anglophones utilisent souvent le vocable most, qui est un superlatif dans la grammaire. Cela veut dire que Dieu n'est semblable à aucun être créé. Dieu est absolument et complètement esprit. Donc, il est un esprit très pur. Il est un esprit aussi invisible. L'idée de se représenter Dieu comme étant un vieil homme habillé d'une longue robe blanche avec les cheveux blancs est complètement ridicule. Comme Dieu est esprit, nous ne pouvons le représenter avec une image, puisqu'un esprit est invisible. Incorporel. Là, des fois, c'est un petit peu difficile à saisir. On dit qu'il est incorporel, donc ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Mais on parle souvent des Écritures, la main de Dieu, l'oreille de Dieu. Et on utilise des mots qui ont l'air à donner à Dieu des membres comme nous. Mais c'est des anthropomorphismes qu'ils appellent, c'est des façons que Dieu a choisies de s'exprimer pour parler de lui-même, pour qu'on comprenne. Quand on dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut-tu dire que Dieu a une main bien longue? Il peut aller te chercher en Chine tellement la main longue. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les moyens que Dieu a pour t'emmener au salut, il utilise une image que nous, on comprend. Avoir la main. Alors, c'est ça. Alors, incorporel, ça veut dire Dieu n'a pas de corps. Alors, il utilise parfois des métaphores. C'est-à-dire, une métaphore, c'est une comparaison. Quand on dit les requins de la finance, qu'est-ce que vous comprenez? On comprend que c'est des personnes qui sont voraces comme un requin, mais dans le milieu de la finance. On sait que c'est pas un vrai requin. Si je parle de quelqu'un là, de Montréal, puis je dis que c'est un requin de la finance, je comprends que c'est un gars qui est puissant à Montréal, qui a de l'argent, puis qui est vorace, puis il sera jamais satisfait par l'argent, il en veut toujours plus. Alors, ça veut indiquer des choses sur Dieu, mais en utilisant un langage que Dieu sait que nous, on peut comprendre. Autrement dit, Dieu s'abaisse à notre niveau pour nous parler de choses de lui qui, autrement, nous seraient difficilement saisissables. Les Saintes Écritures utilisent des expressions comme suggérant que Dieu aurait un corps. Quand on dit qu'il est incorporel, puis que les Écritures disent « le doigt de Dieu », Jésus disait ça, « le doigt de Dieu », il voulait dire que c'est le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, il parlait d'un doigt. Après ça, la main de Dieu, le bras de Dieu, la face de Dieu, les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu dans le ciel et qu'il y a des yeux, des oreilles, des mains? Non, c'est une façon de nous faire comprendre qui il est avec des choses humaines. Par exemple, lorsque la Bible dit, par exemple, dans Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, surveillant les méchants et les bons. » Ça veut dire que Dieu voit ce qui se passe ici ce matin, à la perfection. Puis il voit ce qui se passe dans l'église de Saint-Jérôme, il voit ce qui se passe dans l'église de Montréal, il voit ce qui se passe dans toutes les églises du monde, il voit ce qui se passe dans toutes les villes du monde, il voit ce qui se passe dans toutes les vies de tous les individus de la terre, simultanément. Et tu vas dire, mon Dieu, il a donc bien des yeux. Non, c'est une expression que Dieu utilise pour nous faire comprendre que dans son être, il est capable de comprendre tout ce qui se passe, non seulement sur la terre, mais dans l'univers. Et quand on a su qu'il était ici, quand on a fait la Genèse, là, on a parlé de la grandeur de l'univers. C'est, comme disent les Anglais, « mind-blowing ». Quand tu te mets à regarder ça, là, ton esprit a envie de faire « boum ». Tellement c'est grand. Alors que par Dieu est tout partout en même temps. Et il voit tout partout en même temps. Si tu serais sur la lune, tu aurais un problème, tu pries Dieu. Il est là, il t'écoute, il te voit. La même chose que s'il serait ailleurs. Dieu n'a pas Dieu, mais l'expression veut dire que rien n'est caché à Dieu. Voyez-vous, psaume 91, verset 4, ça, il parle qu'il y a des ailes. Il te couvre de ses plumes. Il parle de Dieu, puis il te couvre de ses plumes. Non, Dieu, c'est un oiseau, tu dis des plumes. Et sous ses ailes, tu trouves un refuge. On parle des ailes de Dieu. C'est une image pour nous parler comme un peu, comme nous, on comprend que quand un oiseau, la mère oiseau veut couvrir son petit, elle étend son aile, puis elle le protège. Bien, c'est une image que Dieu utilise pour parler de... Alors, il ne faut pas voir ça comme une contradiction. Tu dis qu'il est incorporel, mais d'un autre côté, tu passes ton temps à utiliser des expressions qui sont des images corporelles. Il faut faire la différence entre les deux. Alors, l'expression « tu te couvres de ses plumes et sous ses ailes, tu trouves un refuge », ça veut tout simplement dire se placer sous la protection de Dieu. Alors, ça, c'est important. C'est important. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important. Nous devons savoir que la Bible se sert de deux sortes de métaphores. On l'a dit tout à l'heure, une métaphore. Les requins de la finance, il faut se souvenir qu'est-ce que ça veut dire. Pour étudier sa parole, on sait que Dieu utilise deux choses. Les anthropomorphismes. Les anthropomorphismes, ça veut dire attribuer à Dieu les formes humaines. Quand je parle de la main de Dieu, l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu, les ailes de Dieu, c'est des anthropomorphismes. Souvent, on va parler de la main de Dieu, le doigt de Dieu. Anthropos, ça veut dire homme. Morphis, ça veut dire forme. Le Seigneur utilise quelque chose d'une forme humaine pour qu'on puisse comprendre quelque chose qui ne serait pas accessible autrement. Et il utilise, donc, attribué, il y a un autre mot qui récemment a fait des vagues aux États-Unis, dans l'association dont nous sommes membres, comme par la banque, ce qu'on appelle les anthropopathismes. C'est attribuer à Dieu des émotions et des passions humaines. On ne rentre pas là-dedans, Martin, parce que c'est un gros sujet. Mais la Bible utilise ces deux choses-là. Des fois, quand Dieu dit « Je suis en colère contre un tel », est-ce qu'il parle de l'émotion que nous, on connaît comme étant de la colère humaine?
Non.
Ça veut dire que ça y déplaît. Mais il utilise un mot pour qu'on puisse comprendre, un anthropopathisme. Autrement dit, il utilise des émotions que nous, on connaît, pour nous faire comprendre quelque chose par rapport à sa création que lui a. Alors les deux, il faut comprendre l'anthropomorphisme, il utilise des mots pour nous faire comprendre que ça ressemble à des affaires humaines, puis il utilise aussi des expressions ou des mots qui ont l'air à attribuer à Dieu des passions ou des émotions. Et là, il y a tout un débat théologique dépendamment de la manière dont on comprend ça, et ça a créé une division aux États-Unis, dans le milieu des églises réformées baptistes. Quand on pense qu'on sait de quoi qu'on parle, il faudra aller beaucoup plus en profondeur. Pour ça, je vous dis qu'on a besoin d'approfondir notre théologie. Ça dit aussi que Dieu est indivisible. Dieu ne peut pas être divisé. Chacun de ses attributs s'applique pleinement et sans conflit à la personne de Dieu. Il n'y a pas de conflit entre, par exemple, la sévérité de Dieu et l'amour de Dieu. Il aime, puis il est sévère en même temps. Pas de conflit. Il est tout ça en même temps. Impassible. Impassible, à notre époque, le mot passion est utilisé parfois de façon positive. On va dire, ah, lui, il est passionné par l'informatique, par exemple. Passionné, ça veut dire qu'il va donner tout son cœur à apprendre et à développer sa science. Alors, bien souvent, ça fait référence à une personne énergique, très active, dans l'exercice de ce qu'il passionne, l'informatique, les arts, la science ou son métier. Alors, le pasteur Pascal Deneau a écrit un excellent article sur ce sujet, sur son blog, à la question « Qu'est-ce que l'impassibilité de Dieu? » Il répond « Dieu ne change pas dans ses émotions et dans les perfections de ses attributs, bien qu'il intervienne dans le temps et qu'il entre en relation. Son être est éternellement immuable. Dieu ne change pas. Quand les Écritures nous disent « Dieu ne change pas », Dieu était de même au début. Il était de même en 1900, puis il est de même en 2000, puis il va être même, si on sent jusqu'à 3000, il va être de même jusqu'à 3000. Il ne change pas. Alors, le conflit vient de ce que les gens comprennent, les émotions de Dieu. Et à quelque part, il faut comprendre, il faut aller un petit peu plus à les détails pour comprendre ces choses-là. Voyez-vous, dans Jacques 1,17, ça dit que « Tout le bien qui nous est donné et tout don parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, par devers lequel il n'y a point de variation ni d'ombre de changement. » Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, « Lui seul qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des hommes n'a vu et ne peut voir, et auquel soit l'honneur et la force éternelle. Amen. » Tu sais, quand on dit « on va avoir la vie éternelle », on ne deviendra pas éternel dans la même chose que Dieu, parce que nous, on a eu un commandement. Alors, l'homme a été créé par Dieu avec une âme immortelle. Ça veut dire que l'âme qu'il nous a donnée, elle va vivre soit avec lui dans l'éternité, dans le paradis, ou soit avec le démon dans l'enfer pour l'éternité. Alors, ton âme, quand elle est créée, est immortelle, et sa destinée dépend de ce que tu as reçu la grâce ou la foi dans ta vie. Alors, infinité. On était rendu, je pense, cinq, infinité. Donc, il est immuable de façon infinie. Il est immense. Dur à comprendre comment Dieu est immense. Parce que quand on a fait notre leçon sur la Genèse, on a une idée de la grandeur de l'univers connu à l'heure actuelle. Il est autant dans ces distances-là qu'il est ici. Il est partout. Il est éternel, incompréhensible dans le sens qu'on a dit tantôt, tout-puissant. La toute-puissance de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse notre capacité d'entendement. Il est capable de plus de choses qu'on est même, les Écritures nous disent qu'on est capable même de l'imaginer. Quand on laisserait aller notre imagination, on la laisserait déborder un peu, comme on dit. Dieu est plus puissant que ça encore. Alors, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. On va les prendre un par un. C'est pour ça que dans le jeu, il y a... Alors, il est immuable. On va prendre immuable. Dieu ne change pas dans sa nature, dans son essence, dans ses attributs ou dans ses décrets, dans son amour, dans ses affections pour son peuple et dans son alliance. Malachie 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Quelle chose importante à réaliser que si Dieu t'a sauvé, il t'a aimé de toute éternité, puis il va t'aimer tout le temps, il ne te lâchera jamais sur la terre. C'est quelque chose de tellement rassurant de bien connaître la théologie, parce que qu'est-ce que ça dit? « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Immense, l'immensité de Dieu fait référence à son omniprésence. Même si les deux mots « immensité » et « omniprésence » sont presque synonymes, nous devons cependant ajouter que l'immensité pointe au fait que Dieu transcende l'espace et n'est pas sujet à ses limitations. L'omniprésence, quant à elle, dénote que Dieu remplit absolument tout l'espace avec tout son être entier. Ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est là que je veux vous parler de l'aspect pratique de la théologie. Prenez 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Dieu habiterait-il effectivement sur la terre? Voilà, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Aujourd'hui, dans le Nouvel Âge, on est en train de dire que nous, on a une étincelle de Dieu en nous et qu'on est des petits dieux en miniature. Donc, on est comme si on serait Dieu. Et ça circule, là. Allez dans les bibliothèques puis dans les librairies, vous allez en voir à tonnes ces livres-là. La Bible nous parle de choses de Dieu. Et ça, c'est un petit peu aussi la transcendance puis l'immanence. L'immanence, ça veut dire que Dieu est présent de manière parfaite dans toute sa création. Il est présent dans les fleurs, il est présent dans la lune, il est présent partout, tout ce qui existe de création. Donc ça, c'est l'immanence. Dieu est dans toute sa création. Nous y compris. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. C'est là qu'il faut faire la différence. Et ce qu'on appelle la transcendance, et ça, c'est important de le savoir, c'est que Dieu ne correspond pas à ce qu'il est présent dans toute sa nature, dans toute la nature, dans tout ce qui existe. Je sais pas si vous voulez. La transcendance, ça veut dire que Dieu est au-dessus de sa création. Il est à l'intérieur de sa création, mais il est aussi au-dessus. Tandis que le Nouvel Âge enseigne que Dieu, nous, on fait partie de la création, donc on est Dieu, mais ils ne font pas la différence entre l'immanence et la transcendance. C'est une erreur monumentale qui peut mener à des abus terribles. La connaissance de la théologie peut vous dire que plus vous allez la connaître, plus vous allez l'aimer, parce que ça va vous aider à démêler les choses. On va terminer avec... je n'aurai pas de temps à finir aujourd'hui. Le concept d'éternité, pour nous, c'est quelque chose de difficile à saisir, car le fini, on est des êtres finis. On ne peut pas comprendre quelque chose d'infini. Pour nous, comprendre que quelqu'un est au monde, il y a eu un début d'existence, il va y avoir une fin d'existence. Nous, on a l'esprit habitué avec des concepts pareils. Quand on parle de Dieu, a toujours existé, puis quand tu commences à enseigner ça à des enfants, les enfants disent, « Oui, mais qui l'a créé, Dieu? » Oui, l'esprit humain, il n'est pas capable de saisir des choses aussi grandes que ça. Il a toujours existé de par lui-même, en lui-même, et jamais besoin de qui que ce soit. S'il avait voulu, il n'aurait pas eu inventé, pas mis les hommes sur la table, il n'aurait pas eu de problème. Il n'a pas besoin des hommes. Il a toujours existé. Pour nous, l'existence T'sais, loin, dans l'éternité, c'est quelque chose qu'on a de la misère à saisir. Il a toujours existé, il va toujours exister. Nous, on a eu un commencement, puis si on appartient à Dieu, on va avoir l'immortalité, mais juste dans le sens, à partir de notre naissance, aller jusqu'à temps qu'on rentre dans le ciel. Là, on va être immortel, mais on ne sera pas éternel. On va avoir la vie éternelle, mais on ne sera pas éternel de par nous-mêmes. Voyez-vous, le psaume 90, verset 2, dit « Avant que les nuages, excusez-moi, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses mis au jour la terre et le monde, même d'éternité en éternité, tu es Dieu. » On va finir le dernier point, incompréhensible. Il est possible pour un chrétien de connaître Dieu, on le sait. Cependant, peu importe le degré de notre proximité avec Dieu et notre niveau de connaissance biblique, notre compréhension de Dieu va toujours demeurer partielle et incomplète. Et ce qu'il y a de glorieux, c'est même dans l'éternité. Ça, je me souviens d'une fois, il y a une femme qui était venue, j'étais à Rouyn-Noranda, puis elle avait entendu ça pour la première fois, elle n'en revenait pas. Elle est venue me voir après, elle dit « Tu m'apprends une affaire, je ne savais pas ça. » Que dans l'éternité, on va découvrir la personne de Dieu, mais elle est tellement grande, elle est tellement infinie, elle est tellement profonde, que même toute l'éternité ne nous suffira pas pour aller jusqu'au fond des choses concernant sa personne. On a-tu un grand Dieu si on n'a pas un grand Dieu? Si l'éternité ne nous suffira pas pour apprendre à le connaître exhaustivement, combien grand est notre Dieu. Alors, on va arrêter là. Le psaume 145 finit avec le verset 3 où il nous dit que c'est insondable. L'Éternel est grand et très digne de louange. Il n'est pas possible de sonder sa grandeur. Alors, on va terminer là-dessus. Seigneur, merci encore une fois de nous avoir instruits un peu plus concernant ta personne. Permets, Seigneur, qu'on demeure ouvert, qu'on continue d'apprendre pour se rapprocher de toi et mieux saisir tes perfections, ton amour, ta miséricorde, ta grâce et bien d'autres choses encore. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.